Bonjour Alexander Rankovic.
Bonjour à vous.
Merci d'être avec nous ce matin à quelques heures du début de cette COP15 biodiversité, à ne pas confondre avec la COP26 sur le climat qui doit s'ouvrir le mois prochain à Glasgow. Deux événements qui ont des objectifs intimement liés mais qui n'ont pas la même méthode, on va y revenir. Alors pour qu'on comprenne bien, quel est l'enjeu principal de cette COP15?
L'enjeu principal, il est de renouveler le cadre international qui existe pour la biodiversité. Ça fait 2 décennies qu'il existe, même si on en parle moins, effectivement, que les engagements climat, mais ça fait 20 ans qu'il existe des objectifs assez ambitieux au niveau international pour freiner l'érosion de la biodiversité. Les derniers objectifs en date, les objectifs dits d'Aichi, du nom de la préfecture où ils ont été signés en 2010 au Japon, eh bien, ils ont expiré en 2020. Et donc là, un enjeu très important, c'est de venir combler ce vide qui existe maintenant au niveau international pour la biodiversité.
Alors pour revenir aux objectifs que vous venez de citer, il y en avait 20 pour la période 2010-2020 et aucun d'entre eux n'a été atteint.
Aucun d'entre eux n'a malheureusement été atteint en totalité, effectivement.
Alors si on rentre un peu dans le détail de cette nouvelle COP, il va y avoir une vingtaine de sujets discutés pour, je cite, vivre en harmonie avec la nature à l'horizon 2050, avec des objectifs intermédiaires pour 2030. Lesquels concrètement?
Aujourd'hui, dans la dernière version du texte, on a 21 cibles d'action pour 2030 et qui touchent en fait à de très nombreuses facettes du problème. C'est même assez complet, il faut le dire, et ça ajoute beaucoup, bien sûr, de complexité dans ces négociations. Donc vous avez à la fois des cibles qui vont porter sur des sujets dont on a l'habitude de parler autour de la biodiversité, par exemple l'extension de la surface des aires protégées sur la planète ou l'amélioration de l'intégration de la biodiversité dans l'aménagement du territoire ou encore la restauration des écosystèmes. Mais vous avez aussi beaucoup d'objectifs qui vont toucher à l'agriculture, par exemple. Aujourd'hui, ce qui est sur la table, vous avez une proposition de réduction de 2/3 de l'usage des pesticides d'ici à 2030. Et vous avez aussi tout un ensemble très important de cibles liées plutôt à la mise en œuvre et notamment à la mobilisation des financements internationaux qui touchent aux engagements des États à faire le ménage dans leurs politiques publiques et dans les
Autrement
aides
dit,
économiques. Voilà.
les subventions d'État accordées
Exactement.
au secteur néfaste à la biodiversité, on parle de quoi là exactement?
Les derniers chiffres de l'OCDE, c'est 800 milliards de dollars annuels de subventions néfastes et en particulier dedans beaucoup de subventions à l'agriculture intensive, industrielle et également aux énergies fossiles et puis de manière plus ou moins directe aussi à la surpêche par exemple.
Alors la grande différence avec la conférence mondiale sur le climat, c'est que l'accord final de cette COP15 ne sera pas contraignant, aucune obligation pour les États de se conformer aux objectifs. On peut encore se permettre d'avoir ce luxe-là alors qu'on a 1 million d'espèces animales et végétales qui sont menacées d'extinction.
On peut plus se permettre beaucoup de luxe, effectivement, vous avez bien raison. En toute rigueur, l'accord sera contraignant dans le droit international, mais il ne sera pas obligatoire, il n'y a pas de sanctions. Néanmoins, il y a 2 éléments très importants à avoir en tête. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'existait pas dans le monde de la biodiversité de mécanisme de suivi assez sérieux, donc de rendez-vous politique pour parler régulièrement d'où on en est dans les actions qu'on a prises ou qu'on n'a pas prises. Et donc ça, c'est un chantier dans les négociations en cours et c'est un des plus difficiles. Donc il y a besoin de mettre la pression de la part de la société civile et de tout un tas d'acteurs pour que ça avance. Deuxièmement, ce qui sera très important, un petit peu comme l'accord de Paris, en fait, où c'est pas tellement, je dirais, déjà, il n'y a pas de sanctions prévues non plus, mais c'est la prise en main de ces décisions-là par l'ensemble des acteurs derrière, dans leur juridiction nationale, dans même, pourquoi pas, différents types de procès pour une action ou autres types d'actions légales qui peuvent être entreprises pour forcer un petit peu plus la mise en œuvre, où on peut mettre de l'espoir, mais tant qu'on n'aura pas compris qu'il faut absolument connecter ce type de décision avec les discussions économiques qu'il y a alentour, on n'arrivera pas en fait à régler le problème. Et on sait qu'on a à peu près 70% des bateaux qui sont impliqués dans la pêche illégale au niveau mondial, qui sont financés par de l'argent qui a transité par des paradis fiscaux. Au Brésil, on a 68% des capitaux étrangers investis dans le soja et l'élevage de bœuf, donc parmi les premiers facteurs liés à la déforestation, qui sont passés par des paradis fiscaux. Donc, ce qui se passe dans ces grandes messes, ces grandes discussions internationales sur l'environnement, climat et biodiversité, n'est pas déconnecté de ce qui se passe par ailleurs dans le reste du monde. Et donc, tant qu'on n'aura pas trouvé et mis la pression, tous, pour qu'il y ait une plus grande cohérence politique entre ces différents sujets, on ne parviendra pas à avancer suffisamment dans l'atteinte des objectifs qu'on se donne dans ces grands traités.
Merci infiniment, Alexander Rankovic, d'avoir été avec nous ce matin pour le lancement aujourd'hui de cette COP 15 biodiversité. Je rappelle que vous êtes enseignant à Sciences Po et co-auteur de l'Atlas de l'Anthropocène, c'est aux presses de Sciences Po. Bonne journée et à très bientôt sur Europe 1.
Merci, au revoir.